Capsule santé.
La médecine légale, il s'agit d'une spécialité médicale qui applique des connaissances scientifiques au domaine judiciaire dans le but d'éclairer la justice dans des cas de violence physique, sexuelle ou de mort suspecte. En Guinée, cela fait une trentaine d'années que la médecine légale existe, mais fait face à de nombreuses difficultés.
Il a fallu d'abord faire comprendre aux médecins guinéens, à mes collègues, que la médecine légale n'est pas une médecine des morts, c'est aussi une médecine vivante.
Mais avant de nous rendre en Guinée pour parler de la médecine légale, on va d'abord s'intéresser à la question de la transplantation rénale. Pourquoi y a-t-on recours ? Carole Assignon, micro, vous écoutez Capsule Santé. Bonjour à toutes et à tous.
Ce n'est pas tous les patients qui vont aboutir à ce stade qu'on appelle le stade de défaillance rénale, c'est-à-dire à un moment donné où la maladie rénale a entraîné de tels dégâts au niveau des reins qu'ils ne sont plus capables d'assurer leur fonction d'équilibre du milieu intérieur. Et donc, dans ces cas-là, il faut suppléer la fonction rénale et la dialyse est une des modalités du traitement de suppléance rénale, l'autre modalité étant la greffe rénale.
La greffe rénale ou transplantation rénale est le traitement de référence de l'insuffisance rénale chronique terminale. Elle consiste à greffer un rein sain provenant d'un donneur vivant ou décédé pour remplacer les fonctions rénales défaillantes. Dans une précédente émission, le professeur Christophe Maria, néphrologue et président de la Société francophone de néphrologie, dialyse et transplantation, nous expliquait en quoi consiste la dialyse. Aujourd'hui, il est question, vous l'avez compris, de greffe. La transplantation rénale permet de libérer le patient des contraintes de la dialyse et de restaurer une fonction rénale presque normale.
La transplantation rénale, quand elle est possible, va offrir la meilleure qualité de vie et le meilleur état de santé à nos patients qui se retrouvent à un stade de défaillance rénale. La transplantation rénale doit vraiment être, au sein des traitements de suppléance, l'option à privilégier lorsqu'il n'y a pas de contre-indication.
Et comment on procède concrètement pour faire cette transplantation ? Est-ce qu'il y a des conditions spécifiques à remplir en termes d'âge ou de degré de l'insuffisance rénale ?
Alors, de degré de l'insuffisance rénale, oui, hein, il faut être à un stade évolué de l'insuffisance rénale, qu'on appelle même un stade terminal, hein, encore une fois, le terme actuellement consacré, le terme de défaillance rénale, et finalement, à un stade où on se pose la question éventuellement du démarrage de la dialyse, ben, à ce stade-là, il faut se poser la question de la transplantation rénale. Donc la transplantation rénale va nécessiter en effet un bilan pour être sûr que la personne atteinte de maladie rénale sévère est éligible à une transplantation rénale. Et globalement, ce sont des critères d'opérabilité parce qu'il y a une intervention chirurgicale. Mais actuellement, avec les progrès techniques, les limites sont sans cesse repoussées et les contre-indications absolues à une transplantation rénale sont de plus en plus rares. On va citer le grand âge. En général, après 85 ans, on contre-indique la transplantation rénale. On va également contre-indiquer des situations où il existe une insuffisance cardiaque très sévère ou une insuffisance respiratoire très sévère qui rend les gens très à risque d'être opérés. Et puis, on peut citer également les troubles cognitifs, c'est-à-dire les syndromes démentiels avancés, où là, il n'est pas raisonnable de s'engager dans un processus de transplantation rénale.
Et après la transplantation rénale, on peut vivre normalement ?
Oui, donc la transplantation rénale va en effet permettre de retrouver un niveau et une qualité de vie très proche de la normale et dans une immense majorité des cas, bien supérieure au niveau de qualité de vie qui est procuré par la dialyse. Hein, donc les contraintes vont être des contraintes de suivi médical, de suivi biologique et de prise de médicaments pour éviter le rejet de la greffe.
Est-ce qu'on peut être retransplanté ?
Oui, c'est tout à fait possible. Il y a même des cas de personnes qui ont été greffées jusqu'à 4 à 6 fois. Donc c'est tout à fait possible, car en effet, la durée de vie d'un greffon rénal est en moyenne de l'ordre de 15 ans. Et donc il est possible que ceci ne suffise pas chez certains patients qui sont malheureusement arrivés à un stade assez jeune de défaillance rénale.
Une dernière question à la Société francophone de néphrologie, dialyse et transplantation. Vous vous êtes donné pour mission de soutenir le développement de la néphrologie dans tous les domaines. Qu'est-ce que ça implique concrètement?
Ça implique une vision intégrée du parcours du patient et ça nous donne une légitimité justement pour... entre guillemets, prioriser un petit peu les traitements et émettre des recommandations en termes de bonnes pratiques. Et notre position très transversale en néphrologie nous permet aussi d'être un interlocuteur privilégié auprès de nos tutelles politiques. Et il y a beaucoup d'enjeux politiques en rapport avec la maladie rénale. DW.
Capsule Santé, seconde partie, on va parler à présent de la médecine légale. Et pour cela, direction la Guinée, où cela fait 33 ans qu'elle est pratiquée. Retour sur l'histoire de cette unité sanitaire qui peine encore à trouver toute sa place dans le paysage médical de la Guinée. Quelles sont ses réalités, ses avancées, ses défis? Et surtout, quel avenir pour cette discipline dans un pays où les violences et les meurtres restent fréquents? Reportage à Conakry de notre correspondant, Abdoulaye Sadio Diallo.
Dans les écoles de police, dans les écoles de gendarmerie, à l'école de magistrature, j'étais sur tous les champs pour essayer de faire la promotion de la discipline, pour enseigner, pour expliquer quel est le rôle et l'importance de la médecine légale.
L'histoire commence en 1993. Cette année-là, la première unité de médecine légale voit le jour en Guinée. À l'initiative, le professeur Hassan Ba. Il rentre alors de Belgique après plus de 5 années d'études passées à l'université de Liège. Il rapporte avec lui une spécialité encore méconnue, y compris dans les hôpitaux guinéens. Son premier combat, faire comprendre que la médecine légale ne se limite pas à la morgue, notamment au CHU d'Ignace-Dine, où il doit convaincre ses confrères.
Il a fallu d'abord faire comprendre aux médecins guinéens, à mes collègues, que la médecine légale n'est pas une médecine des morts. C'est aussi une médecine vivante. Avec la violence, avec les agressions sexuelles, avec les accidents de travail, avec les maladies professionnelles, il va de soi que le médecin légiste a de quoi faire dans le cadre de cette partie de la médecine légale qui est la victimologie. Donc ce que j'ai fait progressivement et j'ai réussi sur le plan pratique.
Une première bataille gagnée. Le professeur se tourne alors vers la formation. En 1998, avec des collègues ivoiriens et sénégalais, il participe à la mise en place du premier diplôme de médecine légale à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des années plus tard, la formation est introduite en Guinée.
En 2014-15, j'ai décidé d'ouvrir un 2S diplôme de formation en Guinée, suivant les critères du CAMES, et pour former des médecins légistes guinéens et étrangers. Actuellement, j'ai fait déjà sortir 3 promotions. Donc, la première promotion de 9 médecins légistes formés en Guinée, ici, qui sont des Guinéens, et aujourd'hui, ils sont en activité.
Parmi ces pionniers, le docteur Ahmad Mouktar Diallo, il appartient à la première génération formée en Guinée. Aujourd'hui, maître assistant en médecine légale, il dirige l'unité de médecine légale clinique au CHU d'Ignace-Dine. Son service traite des dossiers sensibles.
Les agressions sexuelles, sous toutes ses formes, nous examinons les victimes de coups et blessures, les violences entre les forces de l'ordre et la population civile. Nous examinons également des dossiers en rapport avec des litiges sanguins, vérification, datation de grossesse. À côté de cela, tout ce qui est mort suspecte, nous sommes sollicités pour élucider l'effectivité de la mort, le délai post-mortem, la cause réelle de la mort et les circonstances de la mort.
Je veux un certificat.
Mais sur le terrain, les moyens manquent. Le matériel est insuffisant, les équipements sont vétustes et cela complique les enquêtes médico-légales.
Tel que le kit d'agression sexuelle qui pourrait permettre de mettre en évidence une présence dans un vagin d'un liquide autre que celui de la personne examinée, éventuellement faire des examens permettre l'inculpation ou la disculpation des accusés, s'il y en a. Et au niveau de la morgue aussi, le matériel que nous utilisons, il est vétuste et peu disponible, tel que la table d'autopsie. La conservation des corps, oui, il y a assez d'insuffisance. Le nombre de places qui est insuffisant par rapport à la population grandissante. Donc quand il y a des difficultés dans les hôpitaux périphériques, où le recours ultime, c'est vers les CHU. Ce qui arrive à Niastine n'a plus de référence au niveau national. Donc nous avons des corps qui, par moment, passent des nuits en dehors de la chambre froide par insuffisance de place.
Malgré tout, le travail est salué. Les activistes des droits des femmes reconnaissent l'engagement de l'équipe, notamment dans la prise en charge des survivantes des violences basées sur le genre. Oumoul Kairi Diallo, ancienne présidente du club des jeunes filles leaders de Guinée, témoigne.
Nous sommes très reconnaissants du travail qu'ils font, de la disponibilité qu'ils ont et surtout de tout l'entrain et de l'humanisme qu'ils mettent dans la prise en charge des survivantes de violences basées sur le genre.
À un an de la retraite, le professeur Hassan Ba regarde dans le rétroviseur avec fierté sur le chemin parcouru, des médecins formés et une relève en place. Mais un dernier rêve demeure.
Aujourd'hui, je pense que c'est une discipline qui est bien connue, qui occupe toute sa place dans le système de santé en Guinée aussi, qui, même en Afrique. Donc, j'aurais souhaité d'avoir un professeur agrégé de médecine légale. Aujourd'hui, j'ai 4 maîtres assistants du CAMES. Il y a 2 qui vont probablement, dans 2 ans, être agrégés.
Un souhait qui pourrait sceller définitivement l'ancrage de la médecine légale dans le système sanitaire guinéen. Abdoulaye Sadio Diallo à Conakry pour la Deutsche Welle.
Capsule Santé, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Ce numéro du magazine, comme tous les autres, est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et aussi sur YouTube.